Les aventuriers de l'étrange. Louis Bénédit sur Sud Radio.
Romuald de Leterrier, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes ethnobotaniste, vous êtes également le président d'un festival dont on va parler. Vous nous ferez un petit peu le compte-rendu de ce festival qui s'appelle Chimeria, qui s'est terminé le 4 novembre dernier, qui s'est tenu à Sedan, un festival des arts visionnaires avec des conférences qui ont été extrêmement bien suivies. Vous avez fait le plein, je crois, hein, en termes de public.
Oui, en termes de fréquentation, on a fait le plein à chaque conférence et le public était ravi des interventions et aussi des sujets qui ont été abordés pendant le festival.
Oui, j'imagine. Juste en deux mots, est-ce que vous avez été surpris par l'intérêt que le public a porté aux différents sujets de conférences et au festival en règle générale?
Surpris, non, parce que depuis quelques années, il y a pas mal d'interrogations en ce qui concerne le chamanisme et notamment l'approche amazonienne par les plantes visionnaires, des questionnements qui sont intéressants sur le sens de cette pratique et aussi les risques et les dangers. Donc il y a eu des conférences pour informer à ce sujet. Et puis on a essayé aussi, à travers ce festival, d'aborder le sujet de l'art visionnaire au sens large, c'est-à-dire par différentes disciplines, que ce soit la littérature, le cinéma, mais aussi les arts graphiques, et également tout ce qui était en rapport avec les sons, parce que effectivement là, tout ce qui est du domaine des visions chamaniques peuvent être aussi acquises par le biais de sons, par le biais d'instruments sonores qui provoquent ce qu'on appelle des sons antéosoniques, c'est-à-dire qui amènent un état de conscience modifié, en fait.
D'accord. Une petite définition rapide de ce qu'est un ethnobotaniste, c'est le mélange de deux mots, j'imagine.
Oui, ben en fait, la botanique, c'est la science qui étudie les végétaux, ça tout le monde connaît très bien.
Et puis,
pourquoi ethnobotanique? Parce qu'en fait, cette discipline étudie la façon dont les peuples établissent des relations avec les végétaux, c'est-à-dire quelles sont les conceptions des plantes, quel est le rapport de l'homme à la plante dans
différentes... Ils s'en servent pour guérir aussi, j'imagine, pour soigner, quoi.
Oui, pour soigner, c'est-à-dire, bon, d'abord d'un point de vue phytothérapeutique, et puis aussi au niveau d'une conception, d'une cosmogonie et d'une vision, en fait... des plantes, des végétaux, qui est très différente de la nôtre. On aura peut-être l'occasion d'en discuter un peu plus tard.
Évidemment. Alors, Romuald de Leterrier, commençons par le festival Chimeria, qui, je le rappelle, s'est tenu à Sedan. Ça s'est terminé le 4 novembre. Il avait commencé le 27 octobre pour finir le 4 novembre. Long festival, beaucoup de conférences. Quels ont été les points forts pour ceux et celles qui n'ont pas pu assister à ce festival?
Les points forts, c'était déjà, ça a commencé le dimanche avec les conférences. Hein, le samedi soir du 27 était bien sûr l'inauguration. Les temps forts du dimanche, c'était bien sûr la conférence de Vincent Ravalec, qui était extrêmement intéressante sur comment la civilisation occidentale pouvait aborder le chamanisme selon des logiques différentes. L'après-midi, on avait aussi également Yann Kounen qui a fait un débat après son film, et où il y a eu de nombreuses questions qui ont été posées, bien sûr, des questions très judicieuses relatives à l'ayahuasca, le breuvage sacré des chamans d'Amazonie. Et puis moi, j'ai fait aussi une conférence le dimanche sur les représentations des végétaux dans le chamanisme et dans la science occidentale.
Oui. Yann Kounen, il faut le préciser, ça a été le réalisateur de Blueberry, par exemple.
Oui, c'est le réalisateur de Blueberry, d'Arshan également, d'Autres Mondes, c'est le film qui était présenté, qui est un film entièrement dédié au chamanisme Shipibo-Konibo. Ouais. Et puis dernièrement, 99 francs, qui est un plaidoyer contre la mondialisation.
Oui, tout à fait. Et quel était l'axe éditorial du festival?
Mais en fait, si vous voulez, cet axe, c'était d'essayer, dans un premier sens, hein, pour nous, c'est de faire rencontrer des univers différents. C'est-à-dire qu'on a essayé de faire rencontrer l'univers du grand public avec l'univers des chamans, qui ont une conception bien à eux de la réalité, et puis aussi avec des scientifiques, des chercheurs. Il y avait des chercheurs en ethnobotanique, d'autres chercheurs en anthropologie qui étaient là, issus des sciences humaines. On a même des physiciens qui sont passés sur le colloque, qui étaient intéressés par les conceptions de la matière que les chamans ont élaborées lors de notre projet. Parce qu'on avait travaillé, si vous voulez, pendant un mois en Amazonie avant avec des chamans pour essayer de travailler sur des concepts comme la matière, le temps, l'espace, des choses qui sont les piliers fondamentaux de la cosmologie, en fait.
Et justement, quelle est leur conception de la matière, pour commencer par là?
Mais ce qui est intéressant, c'est que ces conceptions peuvent paraître extrêmement différentes pour le commun, on va dire, des mortels, au niveau des connaissances que l'on apprend à l'université de la physique. Mais lorsqu'on s'intéresse à la physique de pointe, et notamment la physique théorique, on s'aperçoit que les théories ont tendance à se rejoindre et que les concepts de matière et d'information ont tendance à s'unifier à travers les visions du chamanisme, en fait.
Vous voulez dire par là que de manière...
Par des voies très différentes, ouais. On va dire dans le chamanisme par une voie qui est subjective, par l'introspection, on arrive à des conclusions qui sont presque similaires. Je dis bien presque, hein, parce qu'il y a quand même un filtre culturel, un habillage culturel de ces concepts qui est différent, et dans la science occidentale et dans, bien sûr, la pensée indigène.
Mm-hmm. Mais enfin, ils arrivent à avoir des informations comme ça, de manière, en étant dans des états modifiés de conscience, ils arrivent à avoir des informations qu'on peut mettre en parallèle avec de la physique la plus pointue.
Oui, par exemple, la notion de matière, brièvement, on avait travaillé avec Pablo Maringo, qui était l'un des peintres chamans qui était présent sur le festival et qui est quelqu'un qui compte énormément dans le milieu du chamanisme, puisque sa peinture a fait connaître un petit peu l'univers visionnaire à des philosophes, à des chercheurs en sciences cognitives et aussi à des physiciens. Si vous voulez, moi j'avais discuté avec lui sur la notion de matière dans le chamanisme et comment il percevait les unités, on va dire, les plus ultimes de la matière. Il me parlait de son, de musique, de fréquence, de vibration. Oui. Et on sait aujourd'hui qu'à travers les travaux de la physique quantique, on a plus tendance à se représenter la matière dans ses fondements les plus ultimes comme quelque chose de vibratoire, mais aussi d'informationnel, donc quelque chose de communicable, hein, oui, donc quelque chose que les chamans disent très proche de la parole, quelque part du verbe, hein, du verbe dans son sens
le plus large,
sens mystique,
bien sûr. Ouais. Et leur conception du temps, alors?
Alors la conception du temps, elle est étrange, parce que dans l'univers des visions, pour eux, il n'y a pas de temps. C'est-à-dire qu'on a une sorte de présence simultanée, mais en même temps, on a accès à quelque chose qui est du domaine de l'éternité, c'est-à-dire quelque chose de l'intemporalité, en fait. Hein. Donc c'est intéressant parce que même, ils disent que dans leur vision, ils peuvent accéder à des maîtres qui sont disparus depuis très longtemps, à des civilisations qui ont disparu, comme les Incas ou autres, et de ces personnages, ils arrivent à avoir de l'enseignement sur la pratique chamanique ou des informations sur l'environnement ou autre. Hein. C'est très très intéressant, hein, ce sujet de recherche et cette conception du temps qui est un petit peu... Qui est un petit peu aussi, on va dire, qu'on pourrait mettre en parallèle avec les recherches en astrophysique, qui stipulent que pour actionner cet univers temporel dans lequel on vit, il y aurait forcément une sorte de pivot intemporel qui permettrait justement la création simultanée de ces deux univers.
Enfin, on avait parlé du temps, de la matière. Quels sont les autres sujets abordés?
On avait travaillé sur l'énergie, parce que l'énergie, c'est quelque chose qui est extrêmement utilisé dans le chamanisme, parce que bon, les chamans disent qu'ils arrivent à communiquer leur intentionnalité à l'énergie. Alors l'énergie des plantes, l'énergie des éléments, on va dire l'énergie surtout des plantes pour ce qui est de la phytothérapie en Amazonie. Alors le concept qu'on avait pu dégager de leur notion d'énergie, c'est très proche d'un concept informatique, c'est-à-dire que pour eux, on peut, par exemple, si vous n'avez pas une plante sous la main qui va soigner, par exemple, un mal de tête ou quelque chose comme ça, il suffit de chanter l'énergie de la plante et vous allez avoir le même effet sur le patient. Donc il y a une idée d'une énergie qui est qu'on peut extraire du substrat, on va dire physique, de la plante physique. Mais qu'on peut ensuite passer dans un domaine culturel et utiliser pour soigner directement via la parole, via le verbe, via le chant. En fait.
On rejoint leur conception ultime de la matière qui serait proche
d'un... Oui. En fait, c'est très difficile pour eux d'élaborer des concepts différents. Nous avons une pensée fragmentaire, nous disons matière, énergie. Pour eux, il n'y a pas vraiment de différence entre l'énergie, entre la matière. Tout ça, c'est un concept un petit peu global, holistique, et nous, on a tendance à fragmenter les choses. Et quand, justement, on essayait d'avancer dans une direction, on revenait toujours sur le même noyau unitaire de signifiant, en fait, de signification.
Mm-hmm. Vous avez parlé de Pablo Amaringo, qui est un artiste peintre, donc.
Oui. En fait, c'est un peintre qui a commencé à peindre dans les années 50, qui peignait des animaux, qui peignait la forêt, qui peignait très 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 bien la selva amazonienne. Et puis, sous l'impulsion d'une rencontre avec un anthropologue qui s'appelle Luis Eduardo Luna dans les années 80, il a eu l'idée de proposer à ses chercheurs de pouvoir peindre l'univers des visions qu'il avait connu lorsqu'il était chaman quelques années avant. Donc il a commencé à faire ses peintures. Il y a un ouvrage qui a été compilé il y a quelques années qui s'appelle Ayahuasca Vision, qui est un livre qui a fait vraiment date dans l'histoire de l'ethnobotanique, parce que justement, pour la première fois, aux yeux des Occidentaux, on commençait à montrer cette représentation des végétaux aux yeux du grand public et aux yeux des chercheurs notamment.
Et ça représente... Enfin, je sais qu'il est très difficile de décrire une image en radio, mais la représentation d'une plante, on la reconnaît physiquement ou il en représente ce qu'elle est pour lui? C'est beaucoup plus abstrait.
Dans les tableaux, on l'a sous deux formes. Bien souvent, on l'a sous sa forme physique, c'est-à-dire que le peintre a peint la plante, hein, dans un luxe de détails des fois assez surprenant, digne d'un botaniste. Mm-hmm, et à côté, on a des attributs qui sont des attributs, on va dire, on va dire, invisibles de cette plante, qui sont des attributs qu'on perçoit en réalité non ordinaires. Et par exemple, on peut avoir effectivement des visages dans les végétaux, on peut voir certaines énergies, certaines couleurs qui sont associées à certaines énergies curatives. Et donc, effectivement, les tableaux sont extrêmement chatoyants et on a des représentations, des fois vraiment anthropomorphiques également des végétaux, ce qui est étonnant.
Avec des parties animales, vous voulez dire, c'est ça?
Non, anthropomorphique, c'est-à-dire soit des visages humains, dans certaines parties des plantes, mais aussi effectivement des animaux qui sont, on va dire, en symbiose avec ces végétaux, qui sont présents juste à côté des peintures.
Mm-hmm. Et est-ce qu'il y a des symboles qui reviennent tout le temps? Je ne sais pas, moi, de l'ordre du triangle, de la spirale, du point, du cercle?
On a des motifs, oui, géométriques qui sont assez récurrents, mais c'est ceux qu'on perçoit également dans les premiers instants des visions, en fait, hein, qui sont des, semble-t-il, des structures qui sont neurophysiologiques, communes un peu à tout le monde, et qu'on retrouve aussi bien dans les peintures visionnaires d'Amazonie que sur certaines grottes rupestres, chez les aborigènes d'Australie ou d'autres traditions, on va dire, chamaniques. On a retrouvé ça également en Occident, hein, dans la grotte de Lascaux ou des grottes du sud de la France. Il y a un chercheur qui s'appelle Jean-Claude qui a fait un travail extraordinaire, hein, sur justement ce travail, en essayant de prouver que les peintures rupestres contenait vraiment des symboles visionnaires qui sont les débuts en fait des visions en fait.
Mmh. Romuald Le Terrier, un premier bilan à chaud donc de ce festival.
Et écoutez, pour nous ça a été un peu on s'attendait, mais on a quand même été surpris effectivement par l'affluence du public et puis surtout par des questions, hein, des questions qui sont vraiment très pertinentes sur savoir, est-ce que ces chamans qui ont des visions, est-ce que c'est réel? Est-ce qu'il y a une réalité de ces visions? Est-ce que ce sont des fantasmes? Est-ce que ce sont des créations de l'esprit ou de simples hallucinations, on va dire, pathologiques, on pourrait dire? Donc il y a eu ces questions qui étaient vraiment intéressantes. Et puis aussi des questions par rapport à ce fameux breuvage d'Amazonie, par rapport à la loi, par rapport effectivement à sa dangerosité, s'il y en a une. Donc, vous voyez, il y a des questions qui étaient intéressantes. D'ailleurs, j'aimerais profiter de cet instant quand même pour parler brièvement de l'ayahuasca.
Ah ben, on va en parler dans quelques instants. D'accord. Donc, restons d'abord sur le bilan du festival et ensuite on va consacrer une large partie à l'ethnobotanisme. Et donc, on parlera de l'ayahuasca également, bien entendu.
Alors, si vous voulez, par rapport au festival, bon, ben nous, on est vraiment très très contents, d'autant plus qu'on a pu présenter aux gens des choses qui n'avaient pas vraiment été exposées avant, notamment par exemple aussi au domaine du son, hein, sur ce qui est des antéosoniques. On a présenté des sifflets qui ont été retrouvés dans des tombes au Pérou par un archéologue du peuple Chimor. Et ces sifflets, hein, qui ont été retrouvés dans des tombes, on pensait au départ que c'était des objets d'ornement, mais ils se sont rendus compte depuis quelques années que ça produisait des sons. Et que ce peuple avait vraiment une technologie de l'acoustique assez extraordinaire. Alors, ces sifflets ont été présentés au public et ces sifflets ont été aussi joués au public pour qu'ils puissent entendre le son.
Oui.
Et ce son était vraiment extraordinaire puisque là, on avait quelque chose qui n'avait jamais été perçu avant, une présence au son assez incroyable au niveau corporel et au niveau de la conscience, avec on va dire, des fréquences vraiment aiguë à la limite de l'audible, et puis en même temps une sorte de synchronisation des hémisphères cérébraux. C'était vraiment intéressant, c'est ce qu'on appelle les sons binauraux. Cet atelier a vraiment intéressé énormément de monde, des musiciens, pas mal de personnes qui étaient venues pour découvrir un petit peu ce sujet novateur.
Mais justement, qu'est-ce que ça provoque chez celui qui l'écoute, ce son?
Alors, chez celui qui l'écoute, certaines personnes, ça ne provoque rien, il faut le dire aussi, c'est important. Certaines personnes, ça peut même provoquer de la gêne, parce que le son est tellement présent et fort, on va dire, en intensité, que ça peut être agressif au niveau des oreilles, hein, ça peut être un petit peu dérangeant. Bon, savoir qu'on était quand même dans des limites acceptables au niveau sonore, hein, il y avait que 4 sifflets et pas sonorisé bien évidemment. Donc l'intérêt de ces sifflets, c'est que immédiatement ils vont, si vous vous détendez, vous provoquer une sorte de vision, une sorte d'imagerie mentale qui va vous connecter justement à des images de flux, des images en rapport avec le vent, cette espèce de son qu'on entend qui a un rapport avec le vent, une respiration. Donc immédiatement, vous avez pas mal d'associations d'idées qui vont vous amener, on va dire, des images mentales. Ce ne sont pas des visions, ni des hallucinations, des idées, en fait, hein, des idées sous forme de concepts acoustiques qui vous permettent effectivement une certaine sorte de réflexion, de méditation. Et ceci sans aucun problème, parce que dès qu'on arrête de jouer des sifflets, il n'y a pas vraiment de modification de la conscience. Hein.
Une sorte de
méditation et de visualisation, en fait.
Ah, étonnant. Et ils s'en servaient pour des rituels, j'imagine.
Oui, 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 parce qu'en fait, les quatre, ça marche par set de quatre sifflets, et chaque sifflet représente un élément, donc selon les quatre éléments. Et en fait, l'effet acoustique ne peut se produire que quand on joue les quatre en même temps. Si on en joue un ou deux, ça ne fonctionne pas. Il faut que les quatre soient joués en même temps, en fait.
Oui. Et ça donne un son harmonieux, voilà, parce que vous avez dit à la limite de l'audible, mais harmonieux quand même, ou c'est juste sifflé pour donner une note continue?
Ça produit des harmoniques complexes. Il n'y a pas vraiment de mélodie, ça ne crée pas de mélodie. Hein. C'est-à-dire que ça va provoquer une sorte de maelstrom sonore, hein, ça, assez fort au niveau des aigus. D'accord. Et effectivement, ça va avoir une présence au corps. C'est-à-dire que on a l'impression que le son rentre à l'intérieur de vous, pas uniquement par les oreilles, mais aussi par le corps, par la peau, par l'épiderme. C'est assez étonnant. Hein. C'est une expérience assez étonnante que je ne connaissais pas. Et ça évoque encore de nouvelles recherches, je pense, par rapport à ces peuples qui avaient vraiment des connaissances très abouties en ce qui est de l'acoustique.
Ouais. Romuald de Leterrier, une première pause dans Les Aventuriers de l'Étrange sur Sud Radio. On se retrouve dans quelques minutes pour aborder avec vous ce thème riche et en même temps très exotique de l'ethnobotanisme concernant les peuples d'Amérique du Sud. À tout de suite.
Merci.
Les Aventuriers de l'Étrange, Louis Bénédit sur Sud Radio.
Dans Les Aventuriers de l'Étrange sur Sud Radio, ce soir, nous parlons 7 heures de l'ethnobotanisme et également d'un festival qui s'est déroulé à Sedan. C'était jusqu'au 4 novembre dernier. Ce festival s'appelle Chimeria, festival consacré aux arts visionnaires. Romuald de Leterrier, un des organisateurs, est en ma compagnie. Romuald de Leterrier, il y aura une autre édition l'année prochaine.
L'année prochaine, je pense que ça va être un petit peu prématuré. On va essayer, je pense, de faire dans 2 ans, parce que le festival a demandé quand même 9 mois d'organisation me concernant, avec des bénévoles, bien évidemment. Oui. Et j'ai pas mal de projets aussi cette année, des recherches que je dois refaire au Pérou. Donc je pense que on va faire ça, je pense, pour 2009.
Oui, on va y aller tranquille.
Voilà, exactement. D'autant plus que si on veut refaire quelque chose de qualité avec une autre tradition, on sait pas encore également pour l'instant quelle tradition on va aborder, mais on va prendre quelque chose qui soit vraiment en rapport avec le chamanisme toujours, et puis avec des œuvres plastiques d'une qualité exceptionnelle comme on avait eu sur le festival cette année.
Ouais. Parlons donc d'ethnobotanisme. Vous nous en avez donné la définition tout à l'heure. Et l'ethnobotanisme, finalement, est applicable. Là, on va parler des peuplades d'Amérique du Sud, mais d'une manière universelle à toutes les peuplades de l'humanité. Puisque tous les peuples primitifs, au sens noble du terme, ont eu à regarder autour d'eux et à appréhender leur univers, ne serait-ce que pour se nourrir.
Bien sûr, hein, l'ethnobotanisme n'est pas uniquement cantonné à l'Amérique du Sud, on la retrouve en Afrique, en Asie, en Australie, sur tous les continents où justement des peuples natifs ont à un moment eu à se connecter aux végétaux pour la pharmacopée, pour l'alimentation et aussi, on va dire, pour une certaine forme de sacralité, puisque de toute façon ces peuples
sont
en relation symbiotique et ont une vision sacrée de la nature et des végétaux notamment, bien souvent.
Alors, vous avez un site internet dont je profite d'ailleurs pour donner l'adresse, c'est ethno-botanique.com, où vous parlez, il y a une rubrique consacrée au savoir Shipibo Conibo.
Oui.
Shipibo Conibo, c'est le nom d'une peuplade native, comme vous dites?
Oui, c'est un peuple qui se situe en Amazonie péruvienne, qui se trouve principalement sur le long du rio Ucayali. Hein, donc c'est dans le piémont amazonien. C'est donc c'est principalement situé autour d'une grande ville qui s'appelle Pucallpa. Et puis on retrouve des Shipibo un peu plus au nord, jusqu'à Iquitos. Hein. On peut retrouver encore des peuples. Mais c'est principalement aux alentours de la ville de Pucallpa. D'ailleurs, les Shipibo qui étaient venus au festival étaient originaires de Pucallpa et de quelques communautés avoisinantes, en fait.
Et quelles sont leurs spécificités?
Alors, leur spécificité, c'est que c'est un peuple qui est un peuple de l'eau, hein, le peuple de la rivière. Ce sont des gens qui vivent toujours en bordure des rios. C'est un peuple qui a développé toute une véritable, on va dire, une très large palette au niveau de l'art, hein, au niveau des formes, des productions artistiques, notamment au niveau du graphisme.
Oui.
Les Shipibo ont un art, un graphisme qu'on retrouve sur les poteries, sur du tissu qu'on appelle le kéneu, qui est une graphie en fait qu'on retrouve dans les visions d'ayahuasca, et ceci a été transmis et adapté à la culture des Shipibo qui le représente un peu partout, sur tous les objets d'art, sur même certaines maisons, mais aussi sur le corps sous forme de tatouages traditionnels.
Mmh. Vous avez cité à de nombreuses reprises une plante qui est une liane en fait, qui s'appelle l'ayahuasca, qui est un psychotrope très puissant, une drogue, et qui est totalement interdite en France. Il est peut-être temps là, à ce moment de l'émission, de mettre les pendules à l'heure ou de mettre les choses au point concernant ce produit qui, rappelons-le encore une fois, est totalement interdit en France.
Bien sûr. Bah écoutez, moi, ce que j'en dirais, et ça peut même surprendre de ma part, mais je pense que c'est logique, avant qu'elle soit interdite en France, moi, j'étais déjà pour son interdiction en Occident, pour plusieurs raisons, donc je pense que c'est plutôt une bonne chose qu'elle ait été interdite, pour plusieurs raisons. La première de ces raisons, c'est que nous vivons une société de consommation, voire d'hyperconsommation, avec tous ses travers et ses défauts, et que je pense effectivement que le breuvage sacré des chamans est... La conception du monde des chamans, et notamment cette pratique, n'est pas du tout adaptée à une approche occidentale qui aborde bien souvent les plantes visionnaires dans un cadre, on va dire, récréatif.
Donc, pour planer et voir les enfants.
Voilà, c'est ça. Il n'y a pas ce côté rituel qui a un côté protocolaire très strict. On va dire vraiment quelque chose de très pragmatique que les chamans établissent pour prendre cette plante. D'ailleurs, en Amazonie, on ne va pas prendre l'ayahuasca pour rigoler, c'est une médecine. Donc, c'est une médecine indigène, populaire. Les gens vont se soigner et c'est vraiment, on va prendre l'ayahuasca quand on ne peut pas faire autrement, parce que ce n'est pas du tout une expérience agréable, c'est une expérience qui est très difficile. Hein. Donc, il y a presque une peur, on va dire, de ce breuvage en Amazonie pour ce qui est des gens, on va dire, des gens populaires, c'est-à-dire la population...
Du commun des mortels, quoi, voilà, comme
exactement.
Moi, par exemple.
Oui, après, le chaman, lui, c'est autre chose. Le chaman, lui, on va dire que soit il choisit son initiation, c'est-à-dire qu'il il dépositaire d'un héritage que son père ou autre va lui transmettre, et il choisit la voie chamanique, ou soit il est choisi par les esprits sous forme de rêve ou de vision, et à ce moment-là, on va dire qu'il va presque subir son initiation. Oui. C'est-à-dire qu'il va se mettre au service d'une puissance qui est celle d'aider son prochain et de soigner les membres de sa tribu. Mmh. Alors, pour en revenir à l'Occident, moi je pense que c'est très bien que c'était également interdit, dans le sens que, on connaît la logique occidentale, qui est dans une logique de compétition, de consommation. On peut imaginer également aussi, je pense, que à la vue de certains égos et de personnalités, on va dire, hyper-individualistes de notre société, on aurait abouti, je pense, à des dérapages quelconques, de manipulation, vraisemblablement, et aussi des dérapages de business, c'est-à-dire que cette substance aurait pu devenir, je pense, une sorte de produit de marketing comme un autre. Donc je pense que c'est quand même bien qu'il y ait eu une législation par rapport à ce sujet. Le seul petit, on va dire, petit point, entre guillemets, qui pourrait être un peu négligeable, c'est que des chercheurs ne puissent plus étudier le sujet au niveau de l'ethnopharmacologie ou autre. C'est peut-être le seul petit point noir. Si ça avait été, on va dire, cadre université ou autre, je pense que ça aurait été un peu plus large au niveau de l'ouverture d'esprit et de cette recherche. Mais je pense que pour le collectif et pour le bien commun, je pense que cette pratique n'est vraiment pas adaptée à l'Occident.
Au monde occidental. Mais est-ce que le chamanisme, puisque vous l'avez dit vous-même et vous avez créé un festival qui va en ce sens, est-ce que le chamanisme peut en général s'adapter ou apporter quelque chose à notre vieux monde occidental, décadent et en perdition?
Et moi, ce que je pense, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est par rapport à la relation à la nature, à la place de l'homme dans l'univers aussi. Certaines questions à certaines réponses. Alors, le chamanisme, c'est vaste. C'est vrai que le chamanisme amazonien utilise principalement des plantes, on va dire, psychoactives.
Oui, parce qu'il existe le chamanisme sibérien, également asiatique, tout à fait.
Qui utilise la musique, le tambour, le rythme, le jeûne, par exemple, sous forme de diète extrêmement, extrêmement rigoureuse. Mmh. Des diètes qu'on retrouve aussi, d'ailleurs, en Amazonie, qu'on peut retrouver en parallèle avec la prise du breuvage ayahuasca. Mmh. Donc, je pense que le chamanisme, c'est d'abord une vision du monde. C'est d'abord une vision du monde et aussi une pratique curative, mais cette vision du monde, elle est intéressante pour les occidentaux parce qu'effectivement, elle replace l'homme dans une situation, on va dire, un peu moins centrée, un peu moins égotique, on va dire, par rapport à l'univers qui nous entoure. elle permet aussi de créer un monde interactif, c'est-à-dire que on n'est pas dans une notion d'univers objet, mais dans un univers sujet, c'est-à-dire que les plantes ne sont pas considérées, par exemple, dans le domaine que j'étudie, les plantes ne sont pas considérées comme des objets, mais comme des sujets. Ouais. Donc, on imagine une interactivité avec ces végétaux, une acquisition de la connaissance, une certaine forme de dialogue.
Donc, voilà, c'est un rapport complètement différent. Oui.
Ah oui, c'est complètement différent.
Plus respectueux, sans doute.
C'est respectueux. Dans le sens où en plus les Indiens ont bien conscience qu'ils doivent leur survie à cette extraordinaire pharmacopée végétale qu'on trouve d'une façon absolument exemplaire en Amazonie, puisqu'on a quand même un nombre très important de plantes curatives. On trouve d'ailleurs encore des molécules aujourd'hui qui sont utilisées dans l'industrie pharmaceutique qui sont trouvées en Amazonie. D'ailleurs, ce qui est dommage, c'est que cette forêt risque de disparaître prochainement à cause de brûlis, de brûlis d'exploitation. Et il est vrai que moi, je vais souvent là-bas et je vois que la conscience écologique n'existe pas, par exemple. Il y a un rapport écologique, on va dire, avec les gens qui sont dans des tribus, encore en relation avec la nature. Mais au niveau global de la population qui a été, on va dire, en contact avec l'Occident et la pensée occidentale, il n'y a pas cette conscience écologique. Hein. On peut être surpris en Amazonie de voir, par exemple, on va tout jeter à la rivière. Et moi, quand j'ai posé des questions, j'ai dit, attendez, vous jetez des bouteilles plastiques, des sacs plastiques, et des dauphins roses qui nagent à quelques mètres. Mais pour eux, c'est pas concevable. Le fleuve est là, et dans leur conception du monde, le fleuve va forcément tout digérer, tout assimiler. La nature va faire son rôle. C'est pas concevable pour eux que des bouteilles plastiques vont mettre plusieurs dizaines d'années à... voire des siècles à disparaître, être biodégradé, on va dire, dans l'environnement.
Ouais. Alors, on a bien compris donc le rapport, enfin, de ce que le monde des chamans, leur conception de l'univers peut amener donc à nous, peuple occidental. On a parlé de l'ayahuasca, de cette plante donc psychotrope rituelique utilisée par des chamans dans un cadre précis, dans une rituelie précise. Ça les amène à quoi? Cette plante les aide à avoir accès à des univers différents, des univers de rêve onirique, ou est-ce que ça leur donne accès à leur inconscient?
Alors justement, il y a quand même effectivement plutôt maintenant des théories en psychanalyse, mais aussi en recherche sur ce qui est psychiatrie, psychologie, neurophysiologie, qui tendent quand même à montrer qu'effectivement les chamans auraient accès, on va dire, d'une façon consciente, tout le moins pendant l'expérience, à des structures qui sont du domaine de l'inconscient, et notamment de l'inconscient collectif, des structures archétypes.
D'accord.
Donc effectivement, on a accès à quelque chose qui est cohérent. Il y a, par exemple, par rapport à se dire que les visions peuvent être des purs fantasmes individuels, il y a une récurrence dans les visions, que vous ayez un petit peu n'importe quelle, vous soyez issu de n'importe quelle culture, ça c'est des expériences qui ont été faites très clairement, il y a des récurrences dans les visions, c'est-à-dire qu'il y a comme un scénario, un déploiement, on va dire, comme une dramaturgie qui revient un peu de façon récurrente, c'est-à-dire des serpents, ensuite un accès à un espace visionnaire, un enseignement. Il y a quand même une récurrence et une structuration logique de l'expérience.
Oui, donc vraiment des points communs, où que soit le chaman, qu'il soit inuit, en Asie ou en Amérique du Sud, on a constaté vraiment des passerelles, quoi.
Il y a des
grandes lignes, quoi.
On va dire dans toutes les traditions chamaniques, qu'elles soient ou même des choses qui sont dans le domaine de la mystique, comme les soufis ou autres, on a des choses qui sont en corrélation. On va dire qu'il y a un fondement unitaire, une réalité unitaire derrière tout ça.
Il y a une banque de données qui est commune, quoi.
On peut dire ça. Oui.
Alors, autre question, puisqu'on en est à parler de cette banque de données commune, est-ce que cette banque de données qui est commune, visiblement, à tous les êtres humains, on va partir de ce postulat, est-ce que chacun a en soi sa banque de données? Vous voyez, chacun a la bibliothèque universelle, elle est en soi. Ou est-ce que ils vont piocher, alors ailleurs que dans eux, ils se rendent quelque part dans un univers où il y a cette banque de données?
Oui, mais je pense qu'en fait, on a...
bonne question, mon commandant.
C'est une très bonne question, et en plus, je pense que la réponse se situe dans un espace intermédiaire. C'est-à-dire que...
En plus, vous compliquez la...
Oui, parce qu'en fait, je pense qu'effectivement, il y a du savoir qui se trouve en nous. Mais cette mise à disponibilité du savoir par les plantes, c'est-à-dire par l'ayahuasca notamment, se fait par une sorte d'interfaçage. Et cet interfaçage, une sorte d'espace de rencontre entre l'esprit, l'expérimentateur, et on va dire cette intentionnalité végétale. Alors comment ça se produit? Ça se produit qu'en fait le breuvage, on va dire qu'il va aller faire une sorte de scan au niveau biochimique dans le cerveau. Il peut avoir accès à des mémoires de la personne, et on va dire qu'il va toujours prendre la meilleure interface de communication pour essayer ensuite de commencer d'établir un dialogue. C'est-à-dire que bien souvent, la plante va vous parler de la manière qui vous est la plus appropriée. Hein, ça, chez à peu près toutes les personnes. Alors après, on revient sur ces histoires. Hein, je suis quand même, c'est important de le dire quand même. De dire mais pourquoi aller chercher cette connaissance? Alors justement, eux, les chamans, eux, ils vont chercher cette connaissance pour soigner un patient, c'est-à-dire pour que l'esprit de la plante va leur donner la posologie, hein, pour un remède, par exemple, par rapport à telle pathologie, mais aussi pour acquérir de la connaissance sur une situation, comment débloquer une situation sociale ou autre. Un occidental, s'il va prendre cette plante, on peut se poser la question pourquoi il va la prendre. Alors s'il la prend, on va dire, pour essayer de s'élever spirituellement, peut-être, hein, ce qui est parfaitement louable, il faut s'interroger, savoir si cette démarche n'est pas encore égotique, c'est-à-dire que c'est pas pour essayer de se dépasser soi-même, mais aussi de dépasser les autres. Voilà, ce sont des questions qui sont intéressantes à se poser. Il y a quand même des questions importantes que lorsque la personne va prendre ce breuvage en Amazonie, ou s'il en a la possibilité dans la jungle, autre que l'Amazonie péruvienne, puisque l'on trouve l'ayahuasca dans tout le bassin de l'Amazonie, il faut quand même se poser des questions pourquoi on le fait, si c'est juste pour acquérir du savoir et de la connaissance.
On va prendre une grosse claque.
Oui, ça risque d'être dans un processus égotique. Mm-hmm. Et puis en plus, il faut quand même avertir qu'au point de vue médical, quand même, les personnes qui sont plus ou moins prédisposées à des pathologies comme la schizophrénie et notamment certaines psychoses, l'ayahuasca peut être un révélateur de ces pathologies. Donc il faut quand même faire attention. C'est pas quelque chose de récréatif, c'est quelque chose de dangereux quand même au niveau de l'organisme, hein, quand même lorsqu'on a une structure psychologique assez faible.
Oui.
Donc il faut quand même vraiment être prudent, et puis surtout s'interroger pourquoi on va avoir accès au savoir. Quoi. Voilà, ça je pense que c'est très important.
Je pense que le seul moyen, c'est tout simplement, une, ne pas y toucher, sauf si un vrai chaman que l'on rencontre peut-être en Amazonie vous y invite et vous juge digne, à ce moment-là, pourquoi ne pas tenter l'expérience?
Oui.
Mais autrement, éviter. Voilà.
Bien sûr, ouais, on va rester
nous sommes tout à fait.
Qui me paraît très clair.
Quoi. Oui, ça me paraît beaucoup plus sage.
Et très sage, surtout, parce que c'est ça qui manque aussi dans tout cet univers de personnes qui sont intéressées par tout ça, c'est que la connaissance, c'est bien, l'évasion spirituelle, c'est très bien, mais il faut savoir que tout ça, c'est basé autour de la sagesse.
Mmh.
Voilà, il faut quand même être sage et avoir surtout cette notion de sagesse qui est très importante dans cette démarche.
Mmh, tout à fait. Romuald Le Terrier, une pause, on se retrouve dans quelques instants pour parler d'autres plantes, parce qu'il n'y a pas que cette liane, la ayahuasca, qui existe. La forêt amazonienne regorge de plantes aussi extraordinaires les unes que les autres, qui peuvent être mortelles d'ailleurs, qui peuvent être soignantes, bénéfiques. Nous allons découvrir ça avec vous dans quelques instants dans Les Aventuriers de l'Étrange sur Sud Radio. À tout de suite.
Les Aventuriers de l'Étrange, Louis Bénédi sur Sud Radio.
Romuald Le Terrier, qui est ethnobotaniste, est en ma compagnie ce soir sur Sud Radio dans Les Aventuriers de l'Étrange. Nous parlons de peuplades natives. J'aime beaucoup ce terme d'ailleurs, peuplades natives, c'est-à-dire qui sont nées et qui vivent sur le lieu où elles sont nées. Hein, c'est
bien
ça.
Sûr.
Voilà. Donc d'Amérique du Sud, des chamans, des plantes en particulier, enfin des plantes en général. On a parlé de l'ayahuasca il y a quelques minutes, mais il y a pléthore d'autres plantes dans la jungle amazonienne dont ils se servent, bien entendu.
Bien sûr. Alors ce qui est intéressant dans la pensée indienne, notamment chez les Shipibo que j'ai rencontrés avec lesquels j'ai travaillé, c'est que potentiellement toutes les plantes sont susceptibles d'abriter qu'ils appellent la mère d'une plante, c'est-à-dire l'esprit d'un végétal. Et ce qui est intéressant, c'est que ces autres plantes, qu'ils appellent les plantes maîtresses, parce qu'elles enseignent, ne comportent pas de principes psychoactifs. Alors je dirais qu'elles sont extrêmement intéressantes d'un point de vue ethnologique, parce qu'en plus, bon, là, on n'a pas du tout de contraintes par rapport à la psyché, c'est-à-dire par rapport à des substances psychoactives.
Oui.
Mmh. Et ce qui est très intéressant, c'est que souvent, ces plantes sont des plantes médicinales et ont des principes bioactifs, hein, pour ce qui est de la santé, qui sont vraiment extrêmement intéressantes. Alors, le mode d'approche est complètement différent de l'Occident. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'homme occidental, il aborde les végétaux, et il l'a fait depuis la Renaissance, et également au siècle des Lumières, par ce qu'on appelle le paradigme optique, c'est-à-dire par la vue, hein, la vue couplée avec le raisonnement. c'est-à-dire le mental et la vue. Une description, une observation, une description, retranscription. Oui, et puis ensuite, ces végétaux ont été, on va dire, fragmentés sous forme d'entités catégorielles, c'est-à-dire qu'on a...
Oui, classé les voilà, espèces, les sous-espèces, les machins.
On a divisé, on a fait des soustractions au niveau des végétaux jusqu'à descendre à des entités microscopiques, cellulaires et autres.
Bon.
Alors, ce qui est intéressant, par contre, dans la pensée indienne, c'est que là, on a une approche multisensorielle. On n'a pas que la vue. On a le goût, on a le toucher, on a également la vue, mais aussi l'ouïe, puisque certaines plantes sont associées à certaines sonorités issues d'insectes ou d'oiseaux. Mais beaucoup plus intéressant encore, c'est que nous n'avons abordé, nous les Occidentaux, les végétaux, que sur le mode de veille de la conscience. Or,
c'est-à-dire mode de veille de la conscience.
Voilà, il y a plusieurs modes d'accès aux végétaux au niveau de la conscience, c'est-à-dire
toujours selon les Indiens. Hein
oui, l'état de veille, bien évidemment. Mais aussi l'état de rêve et l'état d'introspection, et d'introspection aussi par les plantes visionnaires. Donc, c'est intéressant parce qu'on a quand même trois modules cognitifs différents par rapport à l'Occident. Et alors se dégage une vision qui est complètement différente. C'est-à-dire que le chaman va ce qu'on appelle diéter un végétal. C'est-à-dire qu'il va quasiment se nourrir exclusivement de cette plante, pendant des fois plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et l'information passe par le rêve. C'est-à-dire que,
pour vraiment, c'est-à-dire, en quelque sorte, presque faire corps avec cette plante, c'est
exactement,
ça?
Exactement, il y a un phénomène de consubstance qui est très présent dans le chamanisme, c'est-à-dire que la personne va, on va dire, s'approprier les propriétés, biochimiques de la plante, puisqu'elle va l'ingérer, et ensuite, ces propriétés biochimiques que eux appellent l'énergie, cette énergie va devenir consubstantielle à leur personne et va s'interfacer avec leur conscience par le biais du rêve. C'est-à-dire que par les rêves, il y a des, pareil comme pour un peu pour l'ayahuasca, il y a au niveau de la psyché des thématiques, des dramaturgies qui apparaissent au niveau du rêve, des espaces qui se structurent, des modes de communication qui apparaissent et qui permettent au chaman d'acquérir du savoir par rapport à ce végétal.
Ouais. Est-ce que vous pouvez nous citer un exemple pour qu'on comprenne bien de je sais pas, est-ce qu'un chaman vous a raconté le rêve qu'il avait fait à propos de telle plante qui lui avait permis de mieux l'aborder, de mieux l'utiliser pour soigner?
Bien sûr. Alors, il y a toute une symbolique qui est intéressante. Moi, je peux prendre mon cas personnel puisque j'ai diété un arbre qui s'appelle le chuchuacha, qui est un arbre très important, un gros arbre qu'on trouve dans la jungle.
Alors, vous appelez ça diété, hein?
Oui. C'est-à-dire que ce qu'on fait, c'est qu'on va essayer de modifier son régime alimentaire. Il va y avoir une abstinence sexuelle aussi pendant la pratique de cette diète.
Ouais.
Et on va essayer de se rendre disponible à cette plante. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va s'isoler dans la forêt. On mange très peu. C'est-à-dire qu'on va manger des choses qui sont pas caloriques, pas de sucre, pas épicé, pas de viande rouge, bien évidemment, plutôt des poissons avec des bananes plantain ou un peu de riz. Ouais. Et on va donc prendre cette plante. Moi, je la prenais sous forme d'un breuvage dans lequel on faisait tremper les écorces.
Ouais.
Et donc, au bout d'à peu près une semaine, j'ai fait un rêve qui était intéressant, où je me voyais dans une clairière et il y avait donc comme une sorte de carnaval de personnages anthropomorphiques qui venaient vers moi. Et un des personnages me disait « On veut te montrer quelque chose. » Et ils allaient me montrer une énorme maison. Une magnifique maison qui nous faisait visiter avec des arabesques, des choses assez extraordinaires. Et à l'intérieur, le personnage ouvrait une porte et on arrivait sur une serre tropicale où il y avait une canopée complète à l'intérieur. Et ce personnage me disait, bien voilà, nous on a construit cette maison pour toi et maintenant on va vivre avec toi, mais nous on sera là dans la serre. Donc on comprend par rapport à un petit peu, on connaît un petit peu la symbolique au niveau de l'inconscient et des rêves, on comprend que le corps maison, c'était cette fabuleuse maison qui avait été construite. Et ces végétaux qui étaient en consubstance, en fait, avec mon organisme, se manifestaient sous une forme onirique par ce symbole de la serre tropicale à l'intérieur de la maison, où il y avait toute une forêt. Alors ça, des rêves comme ça, on en trouve énormément. J'ai fait une étude où pas mal de gens, dans les débuts de la diète de ces végétaux, ont ces structurations d'un espace qui est consubstantiel à leur organisme, à leur corps, où se développe effectivement une certaine forme d'énergie et d'intelligence.
Mmh. Et est-ce que ça vous a... quand même donner, parce que le but de cette expérience de diéter un végétal, comme vous dites, c'est quand même d'acquérir, non pas ses capacités, bien entendu, mais d'acquérir du savoir concernant ce végétal en question pour pouvoir l'utiliser, pour voir avec lui, à ce moment-là, travailler à soigner quelqu'un.
Bien sûr. Moi, je ne suis pas allé aussi loin qu'un chaman, parce qu'avec mon mental d'occidental, j'ai malheureusement ce qu'on appelle cassé ma diète au bout de plusieurs semaines. C'est devenu vraiment trop difficile pour moi.
Ouais.
Et
Ah oui, quand même, plusieurs semaines.
Ouais, plusieurs semaines. Ouais, j'ai pris cette plante pendant à peu près 6 semaines à peu près.
Ah oui, quand même.
Et donc les rêves devenaient de plus en plus, on va dire, lucides, de plus en plus clairs. Il y avait une certaine forme d'information qui m'arrivait, mais c'était des choses dans un domaine qu'on pourrait rapprocher un petit peu de l'imitation comportementale. C'est-à-dire qu'il y avait des choses que ces personnages oniriques me demandaient de faire, des choses à imiter, par exemple, des chants à essayer de retenir, à se souvenir.
Ouais.
Et bon, moi, après, c'était trop difficile pour moi physiquement, j'ai dû arrêter. Mais effectivement, les chamans me disaient, mais là, tu en es au tout début de la diète. Voilà.
Ouais, ils sont gentils, les copains, ouais.
Donc voilà, donc bon, c'est tout. J'ai dit, un jour, je referai peut-être une diète un peu plus poussée.
Voilà.
Dans la jungle avec mes amis, mais bon, voilà, c'est quand même un processus qui est aussi difficile parce que bon, il faut quand même avoir un certain contrôle sur soi-même, sur son alimentation, et il faut déjà être bien portant au départ pour pouvoir entamer ce processus.
Quoi. C'est un vrai sacerdoce, hein, finalement.
Oui, il y a une certaine forme d'ascèse, on va dire, quand même,
vraiment,
dans la pratique.
Oui.
Hein, oui. Il y a de l'isolement, il y a certains chamans qui peuvent partir 6 mois, 1 an, voire plus dans la jungle, coupés de femmes et enfants pour s'initier aux végétaux et apprendre encore un peu plus. C'est des spécialisations, en plus c'est presque des modules universitaires dans le sens où le chaman veut apprendre par exemple telle façon de soigner, par exemple le massage ou autre, et donc il va s'isoler et acquérir cette information des plantes qui, comme je vous le disais, vient, je pense, au niveau de l'intentionnalité des végétaux, mais aussi de savoir qu'on a à l'intérieur de nous, puisque bon, on a quand même cet ADN à l'intérieur de nous-mêmes qui contient, on va dire, tout le programme génétique du vivant. Et puis il faut savoir aussi qu'au niveau de nos mémoires physiques, physiologiques, par exemple, dans ce qu'on appelle l'embryogenèse, il faut savoir quand même que pendant ces 9 mois de formation du fœtus en un être humain, le fœtus passe par tous les stades de l'évolution, ce qu'on appelle la phylogénèse, hein, c'est-à-dire toute cette aventure du vivant qui part quasiment d'une cellule unitaire et qui va passer par tous les stades de la vie et de l'évolution, c'est-à-dire des stades embryonnaires. On peut retrouver des branchies de poissons, des poissons qu'on retrouve sur des poissons archaïques, par exemple, dans l'évolution. Donc cette mémoire, on l'a en nous, je pense, véritablement. Après, je pense que les végétaux, et puis cette sorte de disponibilité aussi qu'on se donne à soi-même dans la pratique de la diète et de l'isolation de la diète, va effectivement faire remonter cette information qui est en état de veille normale, on va dire, un petit peu occulté, je pense.
Oui, mais là, vous partez du postulat, enfin, du moins, c'est le postulat des chamans que vous avez rencontrés en Amérique du Sud, qui disent que leur renseignement vient donc de leur introspection et des plantes.
Oui, c'est vrai. Oui. Par exemple, si on demande à un chaman, mais comment vous avez réussi à faire un tel référencement de toute la phytothérapie, on va dire, de la canopée, de la selva, ils vous disent, mais ça, en fait, on l'a appris par les plantes visionnaires. C'est-à-dire qu'on a pris le breuvage, et ensuite, par exemple, si on prend l'ayahuasca nous a dit, pour soigner telle pathologie, il faut aller chercher telle plante en forêt et la préparer sous forme de tel remède, en la combinant avec un autre végétal, par exemple, ou autre. Donc, pour eux, la pharmacologie, on va dire, indigène, a été acquise par le biais de cette communication avec l'intelligence des végétaux et notamment avec les esprits des plantes.
Mais en ce qui concerne le massage, par exemple, là c'est une transmission de chaman à chaman et non pas de plante à chaman, non ?
Non, il y a une communication. Ça m'a toujours étonné. J'ai discuté avec un chaman qui était spécialiste du massage et donc qui peut vous remettre des choses qui sont très proches de l'ostéopathie, par exemple. Et lui, il disait qu'il avait appris par les plantes, par les rêves, et que son corps savait. C'est-à-dire que lui, c'était pas passé par le mental, c'était passé par un savoir du corps. C'est-à-dire que ses mains savent ce qu'il faut qu'elles fassent lorsqu'elles sont sur un patient. Alors, c'est assez déstabilisant, quand même, au début, hein, parce que quand on a une logique scientifique et qu'on arrive dans cet univers, au début, on se dit, tout ça, c'est bien gentil, mais est-ce qu'on nous cache des choses? Est-ce qu'on nous prend un peu pour des nigauds et qu'on veut pas nous dévoiler des pans entiers de la connaissance indigène?
Oui.
Bon, ça peut être un peu déstabilisant. Puis, quand on connaît bien, on s'aperçoit effectivement qu'il y a un mode d'acquisition de la connaissance qui est complètement différent de celui, je vous disais tout à l'heure, le fameux paradigme optique, couplé au raisonnement, quoi. Donc voilà, quand on commence à accepter, ouvrir un peu son esprit et comprendre un peu ses façons de penser, déjà on les respecte, hein, on respecte ses façons de penser, c'est déjà une première chose. Et puis après, on peut effectivement essayer de comprendre et de trouver un intérêt même pour la science occidentale, puisque ça permet d'ouvrir des champs de recherche au niveau de la psyché ou autre qu'on ignore ou qu'on ignorait ou qu'on avait mal formalisé, hein, ou très peu formalisé, comme la psychanalyse avait fait avec l'inconscient collectif. Là, on avait quelque chose d'assez vague hein, quand même, hein, puisque quelque chose qui s'ignore quand même, quelque part, par définition, c'est un peu étrange. Et donc là, bon, on va dire que dans le chamanisme, vous avez accès à quelque chose d'inconscient collectif, quoi, hein, et pas d'un inconscient. Quoi,
hein. Oui,
moins
tout
façon,
à fait.
Hein, façon fragmentaire, mais une façon quand même assez intéressante à développer. Quoi.
Romuald de Terrier, une dernière pause. On se retrouve dans quelques instants dans Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio, toujours pour que vous soyez, lors de cette dernière ligne droite, notre guide encore dans l'enchevêtrement de ces plantes particulières et passionnantes de la jungle amazonienne. À tout de suite.
Les aventuriers de l'étrange, Louis Bénédi sur Sud Radio.
Romuald de Terrier, qui est ethnobotaniste, est en ma compagnie sur Sud Radio dans Les Aventuriers de l'étrange sur ce soir, pardon, a signalé d'ailleurs son site internet que je vous recommande, ethno-botanique.com. Est-ce qu'il y a une plante, un végétal, puisque vous avez parlé d'un arbre, donc c'est pas forcément une plante, mais ça peut être une fleur, un arbre, un arbuste, que sais-je, qui vous a particulièrement intrigué?
Oui, bah, il y en a plusieurs. Il y a notamment cet arbre hein, que j'avais diété entre guillemets en Amazonie. Oui, bah, il y a plein de plantes qui sont étonnantes hein, en Amazonie par leur forme, hein, par leur diversité, on va dire formelle, et puis aussi par les propriétés, on va dire que certains herboristes locaux ou chamans vont vous décrire, parce que c'est vrai qu'il y a des choses qui sont étonnantes, des plantes par exemple pour l'amour, c'est-à-dire pour attirer, pas des aphrodisiaques, mais des plantes pour attirer par exemple les femmes ou les hommes,
bon,
tout ça. Ouais, il y a toute une science.
Attention, vous allez faire fortune, hein, si vous en parlez.
Il y a une science qui est assez étonnante là-bas qu'on appelle les parfumeros, et ce sont des chamans qui utilisent les parfums, les odeurs, hein, pour essayer d'induire des états modifiés de conscience. Voilà, donc c'est assez étonnant, c'est parce que c'est vrai que bon, au niveau de l'odorat, on a accès à des zones du cerveau très anciennes, et ça évoque des images, des sentiments, on va dire plutôt des émotions, des sentiments. Alors, il faut faire également attention, parce que...
Sérieusement, ça marche?
Cette science, il y a des choses qui sont du domaine quand même, on va dire, d'un peu de la croyance, de la superstition,
ouais.
Mais il y a des choses qui fonctionnent, ouais, bien sûr, parce qu'il y a quand même une vraie interaction avec le cerveau, primitif entre guillemets, donc il se passe vraiment des choses. Il faut juste faire attention aussi parce que c'est les parfumeros, certains sont des peuvent manipuler avec ces parfums et essayer de créer dans votre esprit ou dans votre conscience une image un peu auréolée. Donc il faut faire attention aussi hein, de pas succomber au charme de quelqu'un juste pour même s'il a élaboré des parfums extrêmement complexes et suaves, quoi.
Ah oui, c'est presque de l'envoûtement que vous êtes en train de nous décrire.
Ouais, non mais il faut faire attention. Je pense qu'il y a cette partie du chamanisme peut être dangereuse, donc il faut faire attention lorsqu'un chaman utilise énormément de parfums ou des préparations odorantes.
D'accord.
Bon, après, il y a des choses qui sont quand même un peu de la superstition, mais par des coïncidences, des fois, il se passe des choses étranges, effectivement, avec ces fameux breuvages qui sont des compositions assez savantes, quand même, de différentes plantes, même de parties organiques de certains animaux, des racines, des éléments minéraux, ça, c'est assez complexe. Hein. Il y a une alchimie qui est assez étonnante. Hein.
Ouais. Mais des résultats, je ne sais pas, vous avez eu mal aux dents, mal à la tête, et on vous a dit, tiens, mâche deux feuilles de ça, et ça ira mieux tout de suite après?
Oui, ça c'est déjà arrivé.
Ça va,
bien sûr, par exemple, pour la cicatrisation des plaies, il y a un arbre qui s'appelle le sandragon, là-bas, on utilise la résine, c'est assez connu d'ailleurs, ça commence à arriver en Occident, c'est la résine d'un arbre qui possède des propriétés antiseptiques absolument extraordinaires, antivirales et cicatrisantes. Donc si vous prenez un peu de cette résine et que vous êtes coupé par exemple et que vous mettez cette résine sur votre main, vous allez bien cicatriser quoi, comme peut le faire aussi un antiseptique occidental, mais c'est vrai que là, bon, bah, c'est à disposition des Indiens directement sous la main dans la forêt, quoi.
Oui, et peut-être sans effet secondaire, j'imagine.
Bah, c'est possible, si, mais il y a des contre-indications quand même. Il ne faut pas mélanger n'importe quelle plante avec d'autres plantes. Là, c'est pareil, il y a quand même un protocole assez pragmatique. Il faut faire attention. Il ne faut pas mélanger n'importe quel végétaux. Il y a des végétaux qui sont en opposition. Il y a une logique de classification des végétaux qui est différente de la nôtre. Donc, il y a des choses qu'on appelle des végétaux forts, des végétaux faibles, des végétaux chauds, froids. Toujours des associations binaires, on va dire, qui sont basées sur une perception qualitative des végétaux et pas sur une perception quantitative.
Oui, oui. Et vous avez cité deux adjectifs, j'ai trouvé étonnant, des végétaux chauds et des végétaux froids, donc en opposition forcément.
Oui, bien sûr. Bah, par exemple, un végétaux chaud, on va pouvoir le donner à quelqu'un qui est victime, par exemple, d'une sorte d'hypothermie, par exemple, parce que ce végétal, bah, il va effectivement réchauffer le corps, par exemple. Il y a des végétaux froids, mais ces végétaux froids vont être utilisés pour faire baisser la fièvre, par exemple.
Ouais.
Là, c'est un exemple, hein, très rapide.
Oui, tout à fait. Mais c'est comme ça, c'est avec ce genre de rapport qu'ils réussissent à fonctionner. Et est-ce qu'ils sont efficaces dans leurs soins?
Oui, il y a quand même des choses. Le chamanisme ne soigne pas tout. Hein. D'ailleurs, un bon chaman, s'il est vraiment un bon chaman, il va vous dire, ça, c'est de mon domaine. Et ça, c'est pas de mon domaine, donc il faudrait très rapidement emmener la personne dans l'hôpital ou le centre de soins le plus proche. Si on a un chaman qui vous dit ça, c'est vraiment un chaman qui est honnête, qui connaît les limites de sa pratique et qui se dit à un moment, bah, si par exemple c'est une femme qui a besoin d'une césarienne, bah, il va pas s'amuser à la soigner avec des remèdes chamaniques. Il va dire, il faut immédiatement l'emmener très rapidement dans un centre de soins le plus près possible. Il y a quand même cette conception de savoir qu'il y a une limitation de leur savoir au niveau des plantes. Par exemple, ils sont très admiratifs de notre chirurgie occidentale. Ça, c'est quelque chose qui les intéresse vraiment. Et ils ont bien conscience quand même que la science occidentale est une science à part entière avec ses réussites. La seule chose qu'eux nous expliquent, en fait, c'est comme, parce qu'il y a quand même pas mal maintenant de chamans qui ont eu accès à la conscience occidentale, à la culture occidentale, et ils nous disent la seule chose, c'est que votre médecine ne prend pas en compte certains aspects émotionnels et humains de la personne, et donc bah, peut-être qu'un jour on pourra rêver, effectivement, il y a d'ailleurs une science qui s'appelle l'ethnomédecine qui travaille sur ces concepts, qui essaye d'imaginer une science qui fasse l'hybride, en fait, entre ces deux notions pour avoir une médecine des fois un peu plus humaine, un peu plus à l'écoute du patient et à lui apporter surtout des réponses au niveau de sa conscience et de ses questionnements, quoi.
Ouais. Et oui, eux, ils envisagent l'homme dans sa globalité.
Bien sûr, oui. Pas en perception holistique des choses. Hein.
Oui, et pas en termes de symptômes uniquement, quoi, évidemment. Bon. Merci beaucoup, en tout cas, Romuald Le Terrier. C'était passionnant de vous suivre comme ça sur quelques sentiers de la jungle amazonienne. Et puis, rendez-vous dès que possible si vous avez des nouveautés concernant un événement qui vous concerne, qui concerne le monde de l'ethnobotaniste. Vous êtes le bienvenu aux Aventuriers de l'étrange. Pas de souci. Et puis, je rappelle donc l'adresse de votre site internet, ethno-botanique.com.
Ethno-botanique.com. Ce qui est très important, c'est que l'ethnobotanique, c'est à l'anglaise. Donc, c'est pas QE, c'est IC. Hein.
IC, tout à fait. Oui.
Voilà,
en
plus, c'est important parce que sinon, les gens, quand ils vont le taper dans le moteur de recherche, ils risquent de pas le trouver.
Très bien.
Écoutez, merci à vous. Hein. C'était un vrai plaisir de pouvoir s'exprimer un peu sur ce sujet et puis d'essayer d'apporter des réponses, j'espère, le plus clair possible. Mmh. Et puis aussi de mettre aussi en garde par rapport à certaines problématiques qui sont, on va dire, consubstantielles elles aussi à ce sujet de recherche.
Oh oui, tout à fait. Merci beaucoup, Romuald Le Terrier.
Merci.
À bientôt.
Au revoir, à bientôt.
Les aventuriers de l'étrange. Louis Bénédit. Sur Sud Radio.
Les aventuriers de l'étrange, c'est fini pour ce soir sur Sud Radio. On se retrouvera bien entendu demain soir de 22h à minuit avec deux sujets extrêmement intéressants. Nous parlerons des rapports entre les ovnis et la science-fiction. Quelle est l'influence de la science-fiction sur les phénomènes ovnis? Vous allez voir que ça n'est pas une question aussi simple que cela et qui apporte des éléments tout à fait intéressants pour analyser justement les témoignages d'OVNI, et nous irons également à la découverte d'objets tout à fait impossibles, des découvertes archéologiques qui laissent pantois les scientifiques. C'est pour ça qu'on va appeler ce dossier les découvertes impossibles, avec par exemple une carte maritime qui date de 1513 d'un corsaire turc qui s'appelait Piri Raïs. Une carte où le continent sud-américain est entièrement dessiné avec l'Amazone, par exemple, alors que l'Amazone a été découverte que bien plus tard, évidemment. Donc voilà, plein d'objets comme ça archéologiques tout à fait extraordinaires dont on se demande comment ça se fait qu'ils existent, tout simplement. Je vous rappelle également que le jeudi 29 novembre, j'aurai le plaisir d'animer une conférence. Ce sera à l'auditorium de la clinique Saint-Jean de Languedoc, à Toulouse, le jeudi 29 novembre, avec à mes côtés le docteur Jean-Jacques Charbonnier, médecin réanimateur, et auteur de nombreux livres sur les expériences de mort imminente, ainsi que Jean Morzel, qui lui-même a vécu une expérience de mort imminente tout à fait passionnante et qui est l'auteur d'un livre où il relate justement cette expérience. Ils seront tous les deux à mes côtés. Un numéro de téléphone pour réserver, ce sera donc à côté de Toulouse, le jeudi 29 novembre. Ça va démarrer à 20h30. Un numéro de téléphone 05 61 52 78 39. 05 61 52 78 39. Vous pouvez également vous rendre sur le site sudradio.fr à la page des aventuriers de l'étrange. Merci à Mathieu Viguier qui signe la réalisation de cette émission. Pierre Massias qui m'aide à la construire comme d'habitude. Et rendez-vous demain pour deux dossiers extrêmement passionnants.
Les aventuriers de l'étrange. Louis Bénédi sur Sud Radio.